Je souhaite la bienvenue aux participants et aux trois intervenants de cette table ronde dédiée à la problématique des conflits et des ruptures technologiques, et plus précisément sur la mécanisation et la déshumanisation des systèmes d'armes au prisme des drones. En guise d'introduction, je souhaiterais évoquer les écrits de Karl von Clausewitz, qui, dans son manuel intitulé « Principes fondamentaux de stratégie militaire », décrivait de manière très novatrice, en 1812, la notion de corps autonome. Près de deux siècles plus tard, cette réflexion a laissé la place au système de drones et est à présent au cœur des stratégies militaires contemporaines. C'est un outil qui est devenu incontournable et offre la capacité d'intervenir dans la guerre tout en étant éloigné. Les progrès technologiques liés à leur autonomie et à l'apport de l'intelligence artificielle représentent les pierres angulaires présentes et futures qui engagent vers un penser autrement. Ce sera le but de cette table ronde. Et sans tarder, je vais présenter nos trois intervenants qui tenteront de réfléchir sur ces questions. Donc, le premier intervenant est Frédéric Coste, qui est titulaire d'un master professionnel de défense de l'Université Paris II et d'un master recherche en sociologie politique de l'Institut d'études politiques de Lille. Il est maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, donc à la FRS, et ses travaux portent sur les mécanismes d'innovation et de changement au sein des organisations militaires, notamment d'introduction de nouvelles technologies, ainsi que l'analyse des politiques technologiques nationales qui constituent d'autres champs de recherche. Il a participé à la réalisation de très nombreuses études, plus de 70 études et consultances pour le ministère des Armées, pour le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le SGDSN, le CEA et certains industriels de la défense. Il a par ailleurs participé à une dizaine de programmes de recherche européens et français ANR. Notre deuxième intervenant, donc Lionel Collot, qui se trouve tout à fait à notre gauche, est ingénieur aéronautique de Supaéro. Il a un master en management des entreprises et cumule plus de 30 ans d'expérience en aéronautique navale et défense dans un environnement international, dans les rôles de directeur stratégie, politique, produits et ingénierie en France et à l'étranger au Brésil. Actuellement, il est directeur de la stratégie navale pour la GBU Système des missions de défense de Thales et est en charge du développement de l'activité Unmanned Maritime System. Notre troisième intervenant, qui nous fait aussi l'honneur d'être présent, Éric Papin, qui est diplômé de l'ENSTA à Paris Tech, qui est ingénieur du génie maritime de l'Université Pierre et Marie Curie, avec un DEA en mécanique et d'Audencia. Il est titulaire de l'insigne de sous-marinier supérieur frappé du glaive et chevalier de l'Ordre national du mérite. Et il est auditeur de la 51e session armement et économie de défense de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Il a commencé sa carrière à Naval Group, alors DCN, en 1990 comme architecte propulsion des SNLE type le triomphant. Il a rejoint en 1995 le département sous-marin à Paris en tant qu'architecte d'ensemble des sous-marins classiques, à savoir Agosta 90B, Scorpène. Il a été responsable alors de la conception préliminaire et du développement du sous-marin Scorpène. Il a participé à toutes les offres et négociations internationales des sous-marins entre 1995 et 2004. Il a pris la responsabilité de chef du département sous-marin, puis en 2009, de la direction architecture d'ensemble et dissuasion au sein de l'ingénierie sous-marin à Lorient pour encadrer les équipes en charge de l'architecture, des signatures, de la vulnérabilité, de la sûreté, de la sécurité, des facteurs humains et du système d'armes de dissuasion. Comme vous pouvez le constater, nous avons un très beau panel avec des experts sur les questions des drones. Et sans plus tarder, je vais débuter cette session en posant une première question à Monsieur Papin et pour lui demander quelle définition pouvez-vous donner au terme de drone et pouvez-vous également expliquer la notion de drone dans le domaine naval, car ça a une spécificité et c'est important de le donner. Je vous en prie.
Merci. Bonjour à tous, déjà. Définition d'un drone. Alors, un drone, si on regarde dans la définition dans le dictionnaire, on trouve que c'est un engin qui est piloté, sans personne à bord, hein, et qui est capable d'exécuter des missions, que ce soit des missions en téléopération complète, c'est-à-dire avec un opérateur derrière un joystick qui lui dit exactement ce qu'il a à faire, des missions programmées, avec une programmation à l'avance d'un certain nombre d'opérations, ou alors des missions réalisées en autonomie, avec de la perception, de la décision, de l'action, à des degrés d'autonomie variables. Alors, je vais prendre juste le temps d'afficher une petite planche pour passer au domaine naval. Alors, le domaine naval, il est concerné par une grande partie de drones, et dans lequel on va trouver non seulement des drones aériens, ce qui est l'acception assez habituelle d'habitude du terme de drone, hein, mais on va trouver aussi des drones sous-marins, des drones de surface, et puis bien évidemment des drones aériens. L'utilisation qu'on veut faire dans le domaine naval de ces drones, vous verrez que je vous expliquerai qu'on en fait déjà des utilisations, mais ce n'est qu'embryonnaire par rapport à ce qu'on imagine comme application dans le domaine naval, c'est une augmentation des capacités opérationnelles, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que vous prenez une force navale, vous ajoutez des drones, vous avez une augmentation de capacité qui est offerte. On en parlera un peu plus dans le détail dans la suite de la table ronde. Et c'est ça vraiment qu'on vise. Alors, il y a aussi des applications dans le domaine naval industriel des drones, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Par exemple, la surveillance des navires qui sont au port ou en maintenance. Mais ce n'est pas l'objet, je pense, de notre intervention d'aujourd'hui. Alors, si j'essaye de donner une typologie des types de drones, hein, donc j'ai déjà expliqué qu'on avait les drones aériens, donc qui peuvent être voleurs tournantes, voleurs fixes, qui sont les plus connus, les plus développés. On en trouve de taille extrêmement petite, la taille d'une libellule, jusqu'à des drones aériens qui sont quasiment de la taille d'un avion normal. Ensuite, des drones de surface, donc qui sont en train petit à petit d'arriver. Là aussi, on en trouve de taille assez variable. Depuis l'engin télécommandé, hein, que vous verrez dans des essaims de drones sous-marins ou de surface, et jusqu'à des drones qui sont ce qu'on appelle des larges USV, c'est-à-dire qui sont en fait des petites corvettes totalement téléopérées. Et puis les drones sous-marins, qui ne sont pas les plus faciles à faire, puisque naturellement il y a des problématiques de communication, qui sont là aussi de taille variable. On retrouve des tout petits drones sous-marins, là encore, qui peuvent être utilisés en essaim, jusqu'à des drones dits océaniques, hein, j'y reviendrai. Alors justement, on distingue aussi les drones en regardant leur proximité avec la force navale et avec les navires qui la composent. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les drones organiques. Les drones organiques, ce sont des drones qui sont mis à l'eau à partir d'un navire, qui sont finalement, en termes de servitude, totalement dépendants du navire, qui les met à l'eau, qui les récupère, qui les alimente en énergie, qui les dépanne. Voilà. Et ceux-là, ils sont forcément d'une utilisation très différente de la deuxième catégorie sur laquelle je reviendrai, qu'on appelle océanique. Dans les drones donc organiques, on va trouver des drones aériens. Alors, nous, on a une expérience avec la Marine nationale, la DGA. Ce sont les drones Schiebel qu'on a intégrés depuis 2019 sur les porte-hélicoptères amphibies et qui permettent de relayer finalement une surveillance en altitude quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de déployer finalement la capacité qu'ont les navires à connaître leur environnement autour d'eux. En termes d'autres types de drones, on peut parler de tout ce qu'on fait dans la guerre des mines. Et donc là, on a des activités, hein, différentes entreprises d'ailleurs le font, d'avoir ce qu'on appelle des toolbox, donc des boîtes à outils de drones qui peuvent être de types très différents, aériens, surface, sous-marins, avec une mission ciblée de détecter des mines, de les localiser, éventuellement de les détruire, et puis ensuite de faire ça naturellement en sécurité complète par rapport aux navires qui les met en œuvre et par rapport à la flotte qu'elles doivent protéger. Donc nous avons en particulier un projet pour les Belges et les Néerlandais de navires porte-drones avec une toolbox faite par notre partenaire ECA. Troisième type de drones organiques, ce sont les drones sous-marins, donc qui peuvent être de plusieurs types. Je vais parler essentiellement des drones de format torpille, donc qui ont l'avantage d'être mis à l'eau par des systèmes de lancement qui existent déjà à bord des navires, hein, et qui peuvent réaliser un certain nombre de missions. Alors, contrairement à la torpille qui va très vite, très peu de temps, le drone sous-marin va lui vouloir aller beaucoup plus vite, mais à une vitesse relativement lente, pour exercer des missions qui vont être soit de l'ISR, donc de l'intelligence, de la surveillance, du renseignement, ou bien de la détection sous-marine. Si on passe maintenant aux drones océaniques, voilà, j'ai donné quelques exemples pour illustrer ce que je vais dire. Donc on a deux types de drones océaniques. Le premier type qui est illustré à gauche de la planche, c'est un drone sous-marin. donc qui est, vous voyez une image d'un démonstrateur de drone que nous avons réalisé. Il fait à peu près une quinzaine de mètres. Et l'intérêt de ce drone, c'est de pouvoir réaliser des missions en autonomie pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et avoir des charges utiles variées, de l'autonomie en termes de vitesse, d'immersion et de durée à la mer différentes. L'idée de ces démonstrateurs, c'est finalement de se dire qu'est-ce qu'on fait d'un type de drone comme ça, quelles sont les missions qu'on veut lui donner et quelles sont les technologies qu'on doit avoir pour pouvoir en disposer. Deuxième type que vous voyez à droite, ce sont des drones de surface, de grande taille. Alors on a un concept en partie haute hein, qui est un drone de surface qui fait à peu près 40-50 mètres. Et qui est là aussi à vocation de mission de renseignement ou de mission de lutte antiaérienne. Et en dessous, vous voyez un démonstrateur qui était initialement un démonstrateur élaboré pour la guerre des mines. Il s'appelle le Sterendu. Et nous l'avons récupéré pour pouvoir l'utiliser comme finalement démonstrateur des technologies pour les drones de surface. Alors, pour terminer sur cette partie, ce qui est important, c'est de voir que l'innovation majeure de ces drones, on pourrait dire que c'est finalement le fait qu'il n'y a pas d'homme dedans, que c'est une simplification énorme par rapport à des navires dans lesquels on doit gérer la vie d'un équipage, la sécurité d'un équipage. Et en fait, la difficulté, ce n'est pas ça, c'est de savoir ce que fait l'équipage à bord d'un bateau. Et c'est de connaître l'usage pour pouvoir le reproduire, soit en téléopération, soit en programmation et encore plus en autonomisation, de manière à ce que le navire réalise lui-même les activités que l'équipage ferait s'il était à bord. Et ça, c'est très compliqué. Ce n'est pas simplement de l'intelligence artificielle, c'est de l'architecture de navire, en fait. Et d'être capable de dire qu'est-ce qui est important que le drone puisse faire tout seul, qu'est-ce qu'il est important que l'homme dans la boucle lui donne comme consigne, avec une finalité qui est très simple, hein, je l'ai dit en introduction, c'est augmenter les capacités de la force navale, intégrer de plus en plus de données, donc utiliser ces drones comme autant de senseurs qui sont avancés, déportés par rapport au navire, pour enrichir la situation tactique, étendre finalement toutes les missions que le navire peut réaliser en permettant aux drones d'aller dans des zones dans lesquelles il peut y avoir une relative dangerosité pour le navire et pour l'équipage, et donc de soustraire l'équipage à un risque ou à des tâches très répétitives. Et puis enfin, l'autre point, c'est que le drone ne soit pas une limitation pour la force navale, qu'on n'ait pas de contraintes pour le mettre à l'eau, que ça ne soit pas finalement une sonnette, une clarine autour de la force navale qui, au lieu de la protéger, va au contraire la révéler à son ennemi. Donc c'est l'ensemble de ces problématiques qu'on doit traiter dans le domaine naval, avec un élément majeur qui nous réunit tous, c'est la mer. Et vous savez que faire des véhicules autonomes sur la route, c'est déjà compliqué, mais les routes ne bougent pas, c'est leur grand avantage. Alors que le faire en mer, avec un climat, avec du vent, eh bien c'est totalement autre chose, et c'est finalement la grande difficulté de l'exercice.
Je vous remercie, on voit très bien ces éléments de définition pour aborder justement les défis techniques que je souhaiterais que M. Collot aborde et savoir en fait quels sont ces principaux défis techniques que vous pouvez identifier pour l'utilisation des drones dans le domaine naval.
Merci. Vous m'entendez ? Oui. Merci, bonjour à tous. Alors, pour parler des défis techniques, ils sont relativement nombreux quand on parle de drones, et le tableau était bien dressé. Il faut avoir une vision un peu holistique, c'est-à-dire que le drone, c'est un vecteur hein, qui se fait porteur de charges utiles, hein, donc de capteurs, d'effecteurs, dans la plupart des cas, et il est intégré dans une force, au global. Donc ça veut dire qu'on va avoir des problématiques techniques à trois niveaux, au niveau des charges utiles, au niveau des capteurs, au niveau des effecteurs, au niveau du vecteur lui-même. Et on va avoir enfin une problématique d'intégration dans la force qui va poser, on va le voir, pas mal de défis techniques au niveau système et au niveau système de système, c'est-à-dire du contrôle-commande. Et on parle de drone et on parle également de lutte anti-drone. Hein. On est sur les deux problématiques hein, et ça s'applique également en aval. Alors, on a parlé de développement de systèmes et à travers, on parlait de guerre des mines tout à l'heure, à travers le programme MCM que Thales développe pour la marine française et la marine britannique, on a pas mal appris sur toutes ces problématiques et l'ensemble des défis techniques. Alors, ils sont à plusieurs niveaux. Alors, d'abord, le milieu, on en a parlé. Le milieu maritime, il est agressif, hein, il est exigeant. On peut avoir des notions d'état de mer relativement importantes. La première problématique d'un drone, ça va être effectivement sa navigation et sa compatibilité avec l'état de mer. Et quand on parle de drone organique, tel que ça a été mentionné tout à l'heure, la première difficulté, ça va être la mise à l'eau. Et au-delà de la mise à l'eau, ça va être la récupération. Il est évident que quand on utilise un drone, on a envie de pouvoir le récupérer par la suite. Et on sait qu'en fonction de l'état de mer, ça va être plus ou moins compliqué et ça va poser beaucoup de défis techniques. Donc là, on est sur des aspects de mécanique, des aspects d'intelligence artificielle, pour aller mettre à l'eau un capteur ou un effecteur doué d'intelligence et relativement pointu dans un environnement agressif. L'autre évidence quand il s'agit de drones dans le domaine naval, ce sont les drones sous-marins. Il est clair qu'on a les drones aériens, on a les drones de surface, je viens d'en parler, mais on a également les drones sous-marins avec une véritable problématique qui est celle de l'étanchéité, qui est celle de la difficulté de perte de communication ou de communication limitée. On peut avoir de la communication acoustique. Et puis on a la problématique de la profondeur. Sur des notions comme la maîtrise des fonds des mers, on va avoir besoin de descendre jusqu'à 6000 mètres. Et 6000 mètres, ça commence à poser beaucoup de contraintes à tous les aspects du drone. L'état de mer, j'en ai parlé. Effectivement, on a aujourd'hui des dispositifs de mise à l'eau de récupération qui sont compatibles d'un état de mer 4, voire 5. Et on s'achemine vers des drones qui pourront être utilisés comme taxi, donc ce qu'on appelle des USV, des drones de surface qui pourront être utilisés pour mettre à l'eau des drones sous-marins et les récupérer. La problématique toujours étant la récupération. Au niveau de la charge utile, on va retrouver la problématique d'agression du milieu, un milieu très, très difficile. Une problématique de miniaturisation. Hein, les drones sont forcément par nature, évidemment des gros drones, hein, des drones océaniques, mais souvent les drones sont plus petits que les bateaux qui sont utilisés jusque-là. Et donc les charges utiles vont avoir besoin d'être plus petites, miniaturisées, de manière à pouvoir être embarquées. Et on a forcément une limite, par effet boule de neige, de la taille de la charge utile par rapport à la taille du drone. On va avoir une problématique de détection. Quand on parle maintenant du chapitre de la lutte anti-drone, ce sont des objets plus petits qu'on va pouvoir détecter pas forcément aussi facilement que des aéronefs ou des bateaux. Donc la problématique de capteurs radar, de capteurs de guerre électronique. Et puis une plus grande problématique encore de détection des drones sous-marins qui, eux, sont par nature petits. Est plus petit qu'un sous-marin. Donc ça pose quand même beaucoup de contraintes sur la chaîne de détection. La communication, j'en ai parlé. La composante d'intelligence artificielle, bien évidemment, qui parle de drone parle forcément d'autonomie. Hein, on a différents niveaux d'autonomie, on y reviendra. Et au-delà du premier niveau, qui est le drone téléguidé, finalement il n'est pas si autonome que ça, il est radioguidé, on attaque des problématiques de navigation autonome. Pour citer la première, et ça suppose de l'intelligence artificielle, et ça va tout de suite poser des contraintes sur des notions d'intégration dans le trafic maritime, d'évitement, de compatibilité avec les règles de circulation maritime, de Colreg et autres. Ensuite, on a l'intégration dans la force. En ce qui concerne l'intégration dans la force, le drone va être utilisé de manière souvent conjointe, donc on aura une notion d'intégration des systèmes habités et des systèmes dronisés. Et là, on attaque un sujet qui n'est pas très facile. On a, sur la base de l'expérience de guerre des mines, hein, qui était le premier domaine de lutte qui a vu les drones utilisés maintenant, on commence à les voir de manière opérationnelle, se pose la question de l'emploi des drones. Et donc, pour les marines qui voudraient les adopter, et elles sont nombreuses à vouloir les adopter, c'est de faire le choix. Et donc de faire le choix des concepts d'opération, des CONOPS, versus l'évolution de la technologie. Ce n'est pas facile, et ce n'est vraiment pas facile de faire un choix raisonné et de faire un choix en confiance. On en reparlera, la confiance c'est un mot d'ordre qui arrive assez vite quand on parle de drone. C'est avoir confiance dans le fait que le drone va traiter sa mission correctement, qu'on va le mettre à l'eau, qu'on va le récupérer, que si jamais on ne le récupère pas, il est protégé en termes de cyberdéfense, que les données qui sont à bord ne vont pas être attrapées. On a tous en tête des vidéos qu'on a vues sur YouTube de rebelles outils qui avaient capturé un drone, un sous-marin américain. Et on imagine bien la problématique de protection des données qui sont à bord, donc la problématique de cyber. Donc les marines ont besoin d'avoir cette convergence entre l'étude des concepts d'emploi et puis la technologie. On voit que, par exemple, l'OTAN, pour ça, a créé un groupe de travail qui s'appelle le MUSI, pour Maritime Unmanned System Initiative, qui repose sur deux piliers. En gros, il y a une espèce de push-pull. Un premier pilier qui est l'étude des CONOPS et un deuxième pilier qui est les démonstrations pour arriver à maturer ainsi, avec ces deux piliers-là, la technologie et le concept d'emploi qui va permettre de les utiliser. Une autre problématique que je citerai, alors on a un petit peu au-delà du technique, mais quand même on est dans le cycle de vie, c'est la notion d'obsolescence, en particulier quand on parle des drones organiques. Et c'est pris en compte par certains programmes en cours de développement. Le drone organique va être lancé, récupéré par un bateau mère. Le bateau mère, il va être là pour une trentaine d'années. Les drones vont être soumis à une obsolescence technique un peu plus rapide. Donc il faut prendre en compte dès le départ la compatibilité de l'évolution des technos des drones et leur côté, je dirais un petit peu trivialement, plug and play. Enfin, techniquement, je parlerai de maturité. L'utilisation des drones par les forces suppose d'avoir des objets matures, des objets crédibles, des objets de confiance. Et il faut forcément arriver à développer et à démontrer des capacités que les forces vont pouvoir intégrer et qu'elles vont pouvoir intégrer en toute confiance, c'est-à-dire arriver à faire la part des choses dans ce que j'appellerais le bestiaire des drones. Hein, ne serait-ce que pour prendre l'exemple des USV, on a aujourd'hui une centaine de types d'USV différents de par le monde, avec différents niveaux de maturité, différentes tailles. Il faut bien, dans tout ça, faire le bon choix du drone qui va effectuer la bonne mission avec le bon niveau de confiance. Donc on le voit, c'est une problématique très particulière dans cette prolifération du monde des drones pour s'appuyer sur des drones, des systèmes de drones sérieux qui permettent de répondre à l'objectif de mission et donc un ensemble de technologies et de défis techniques qui est très vaste.
Je vous remercie Monsieur Collot pour ces aspects techniques et on souhaite aller un peu plus loin au regard des questions de l'intensification de l'utilisation des drones et notamment dans des zones géographiques comme au Moyen-Orient, en Méditerranée, sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je laisse la parole à Monsieur Coste.
Alors bonjour, moi je vais faire un petit détour par les drones aériens puisqu'on n'en a pas traité pour le moment, pour revenir sur les drones maritimes et pour faire une petite comparaison des emplois en fait des deux types de drones. Si on part sur les drones aériens, il y a plusieurs points à prendre en compte. Ce ne sont pas des systèmes nouveaux en Méditerranée et au Moyen-Orient. Israël s'est doté d'une flotte de drones dès les années 60 et les a utilisés de manière opérationnelle pendant ses guerres contre ses voisins arabes. L'Égypte s'est dotée de drones américains, d'une flotte de drones américains dès les années drones aériens, dès les années 80. Donc c'est pas un phénomène nouveau. Récemment, ces drones ont été les drones aériens de tout type, de toute taille. Ont été employés en Libye, en Syrie, au Yémen, en Irak, en Israël, je vais y revenir, et au-dessus des territoires palestiniens. Donc il y a quand même une zone où effectivement la densité d'utilisation est très très forte. En réalité, avec la chute de l'Irak en 2003 et les printemps arabes, on a eu un certain nombre de pays qui ont été déstabilisés, très fortement déstabilisé avec la création de zones grises, des guerres civiles, des zones d'expression pour les rivalités régionales et internationales. Et en fait, ces zones ont été des zones dans lesquelles les drones ont été plus particulièrement utilisés. Ils ont même servi, d'une certaine manière, à faire progresser les différents types de systèmes, tout simplement parce qu'ils ont subi le feu, enfin l'expérience opérationnelle. Donc par amélioration incrémentale, ce sont des emplois qui ont bonifié en fait les systèmes. Il faut également remarquer que dans la zone, toujours pour les drones aériens, on a quand même des gros producteurs solides maintenant, avec des bases industrielles et technologiques relativement robuste en Turquie, en Israël et en Iran. Alors, même s'il y a évidemment des disparités nationales, mais avec finalement des stratégies qui étaient relativement proches, qui étaient le développement de très nombreuses familles de drones, de tailles différentes notamment, et avec des applications différentes, des investissements dans différentes formules technologiques et des choix progressifs. C'est-à-dire qu'on a eu des systèmes d'arbres où finalement on a ouvert énormément les possibilités et puis progressivement les programmes sont allés vers des choses plus ciblées, ce qui a assuré une montée en compétences technologiques de ces bases industrielles et technologiques de défense dans ces trois pays, d'autant plus qu'ils sont exportateurs maintenant. Pour la Turquie et l'Iran, on a même un positionnement très particulier qui est la vente en fait de systèmes aériens low cost et qui servent en fait les politiques étrangères de ces deux pays. On le verra avec notamment des transferts aux proxys, hein, aux alliés non étatiques. Alors, par effet boule de neige, on a certains autres pays qui commencent à se mettre dans leurs pas. Les Émirats arabes unis développent leur propre industrie de production de drones aériens et ils commencent à déployer exactement de la même manière leur plateforme en soutien de leurs alliés et en soutien de leurs proxys en Libye. De la même manière, au Yémen également, en Éthiopie, l'Égypte développe une industrie locale et le Qatar aussi. Donc on a un effet de dissémination qui n'est pas qu'un effet de dissémination des systèmes, mais la volonté de plus en plus d'États de maîtriser en fait ce segment technologique et industriel des drones volants. Dans ces pays producteurs, les firmes locales investissent de plus en plus dans l'armement des drones. Donc on est sur des programmes qui visent à l'armement des drones, même si évidemment les autres fonctionnalités des drones aériens sont travaillées, hein, bien évidemment. Plus largement, on a un développement des flottes dans les pays arabes, qui ne sont pas nécessairement producteurs. On a vraiment un effet boule de neige, c'est-à-dire que les efforts turcs et iraniens ont amené l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte à vouloir se doter. L'un des objectifs poursuivis en développant les filières technologiques et industrielles locales ou en achetant localement, hein, un pays qui en typiquement la Turquie, c'est une moindre dépendance à l'égard des fournisseurs occidentaux. Et c'est aussi pouvoir se prémunir contre les ruptures des chaînes d'approvisionnement. Autre point important, j'en ai plus beaucoup, mais autre point important, il y a des transferts et même des capacités de production désormais pour des acteurs non étatiques. On pense aux acteurs houthis au Yémen et surtout au Hezbollah au Liban. Beaucoup de systèmes ont été employés lors d'opérations, je l'ai dit, et donc avec des améliorations incrémentales. Ce qui fait que globalement, et ça va être une vraie différence avec les drones maritimes, pour les drones aériens, le coût d'entrée pour se doter de cette capacité a énormément baissé au cours des années 2010 et au début des années 2020, notamment par l'utilisation de systèmes civils qui ont été militarisés ou par l'achat de drones low cost qui étaient proposés notamment par l'Iran et la Turquie. Donc schématiquement, au niveau local, on va trouver... Alors évidemment, c'est très schématique et c'est beaucoup plus complexe que ça dans la réalité, mais on va trouver deux catégories. Des drones complexes intégrés généralement des plateformes qui sont des types MAL, hein, donc longue endurance et moyenne altitude, qui sont intégrés au réseau de communication des autres plateformes et au système de commandement et de contrôle des armées, qui vont prendre en charge des missions relativement diversifiées. Ça, c'est le haut du spectre, et c'est plutôt les États riches. On voit ça, par exemple, en Arabie saoudite. Et puis, vous avez un deuxième segment, qui sont des drones beaucoup plus simples, employés pour du targeting, donc du ciblage, de la reconnaissance, du renseignement tactique, voire de la frappe, généralement sous forme suicide. Ce qu'on a vu, c'est que les drones étaient employés sur les théâtres d'opération, je vous l'ai dit, mais ils permettent aussi d'aller frapper le territoire d'États qui sont relativement loin des zones de conflit. On l'a vu par exemple avec les Houthis qui ont été capables de frapper les Émirats arabes unis, ou l'Iran qui a attaqué des installations pétrolière en Arabie Saoudite, même si les informations sur ces attaques sont difficiles à analyser. Ça cherche à montrer chez ceux qui développent ces capacités que, à la fois pour leur propre population et pour les adversaires, que le fort n'est plus inatteignable, son territoire n'est plus inatteignable. Donc il y a la volonté de montrer un effet de dissuasion parfois, ou de terrorisation par le fait d'aller frapper très loin son ennemi. Quand on regarde, et je finis par là, pour les drones maritimes, le coût d'entrée est beaucoup plus lourd en réalité, parce que le segment civil notamment n'est pas aussi développé. Et donc ce qu'on observe tout de même, c'est que à peu près les mêmes États développent des programmes de drones maritimes. On va retrouver un petit peu l'Égypte, mais surtout Israël, la Turquie et l'Iran. Parfois même d'ailleurs en utilisant les mêmes méthodes. Je pense à l'Iran. L'Iran a fait du rétro-engineering et surtout a volé des composants là où il pouvait en voler pour les dupliquer. Donc ça a été appliqué aussi bien pour les drones aériens que les drones maritimes. On parlait, je ne sais plus qui a parlé, de la récupération par les Houthis d'un drone sous-marin, je crois. Sous-marin américain. Il est fort probable qu'il ait été un peu vidé et étudié. Et donc l'Iran en est bénéficié. Cela dit, on n'aura pas le même phénomène de dissémination, ce n'est pas de la prolifération, mais de dissémination, tout simplement parce que le ticket d'entrée est beaucoup plus élevé pour les drones maritimes. Le ticket d'entrée technologique et industriel est beaucoup plus élevé que pour les drones aériens. Et donc il y aura certainement un plus grand décalage et une capacité à monter en compétences qui sera plus lente dans les pays de la zone. Voilà.
Je remercie M. Cosse pour ses propos éclairants sur l'effet proliférant des drones, qui est vraiment très bien expliqué. Passons à une deuxième salle de questions. Et derrière ces machines, il y a des hommes. Et donc, quelle est la place de l'homme dans l'utilisation des drones, et quelle confiance accorder à ces systèmes, et quel degré d'intégration peut-on attendre?
Alors, d'abord, je vais faire une petite introduction sur le fait qu'avant de parler de drones, on peut parler d'autonomisation des fonctions de navires avec équipage. Parce que finalement, on est un peu dans la même logique, c'est qu'on a des systèmes à bord d'un bateau, et la construction navale civile ne s'y est pas trompée, hein, qui fait ça maintenant de manière systématique. On réduit les équipages, on automatise beaucoup de choses. Et donc le rapport finalement entre l'équipage et puis ce qui est en train de se passer sur des systèmes à bord du bateau avec beaucoup d'autonomie, c'est déjà quelque chose qu'on connaît. La différence quand même majeure, c'est qu'à bord des navires de guerre, on a des équipages qui sont extrêmement techniques, qui doivent savoir ce qui se passe sur les systèmes, pouvoir reprendre la main à tout moment en cas d'agression militaire. Et donc, ils ont vraiment l'habitude de rentrer dans le détail des systèmes, de les conduire, de les connaître. Et donc, ils ne sont pas prêts forcément, et on le connaît déjà sur les navires qu'on a avec équipage sur lequel on a développé l'automatisation, il y a une certaine méfiance, il y a une certaine défiance même, c'est-à-dire parfois c'est pas robuste, on ne comprend pas ce que ça fait. Voilà. Et donc quand on va passer à la dimension supérieure, qui est de mettre cette automatisation sur des véhicules qui sont loin du navire, donc loin de la supervision directe de l'équipage. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas se contenter d'automatiser ce que font les systèmes, mais on va automatiser ce que ferait l'équipage. Donc on va rajouter une couche de difficultés supplémentaires. Là, on va rajouter finalement énormément de difficultés en termes de confiance. Alors, l'autre point, je vais passer assez vite dessus, mais c'est que, si je reprends, voilà, c'est qu'on est dans une logique où, de toute façon, les navires n'opèrent plus tout seuls. Et on a déjà une problématique qui est, même sur des navires habités, de pouvoir faire du combat collaboratif, c'est-à-dire de pouvoir faire dialoguer des systèmes avec des équipages à chaque fois, que ce soit des aéronefs, des navires, pour partager une situation tactique, ce qu'on appelle la veille collaborative navale, et peut-être demain faire de l'engagement collaboratif, donc la mise en œuvre d'armes. Donc on a finalement deux difficultés. La première, c'est ce combat collaboratif dans lequel les drones vont prendre une part de plus en plus importante, donc collaborer entre navires et drones, et puis d'autre part, avoir des fonctions automatiques sur les systèmes et sur la manière dont l'équipage utilise les systèmes. Alors, sur la problématique que je voulais mentionner, pardon, je reprends mon fil. La problématique importante, c'est que nous, on est convaincus qu'il ne faut pas faire une surenchère à l'automatisation. Voilà, il faut faire en sorte qu'on mette vraiment de l'analyse de la valeur dans ce qu'il faut automatiser. Comme ça a été dit par mon collègue tout à l'heure, il y a un certain nombre de hiérarchies dans ce qu'on va automatiser. Il y a vraiment la navigation en sécurité. Il y a la réalisation de mise en œuvre de charges utiles relativement simples. Il y a les problématiques de recharge en énergie, en particulier pour les drones sous-marins avec batterie. Il y a la problématique de se rapprocher d'un navire qui va vous récupérer ou récupérer les données que vous avez. Il y a des réactions à avoir en cas de perturbation de la mission par quelque chose d'inattendu. Et puis, on va vouloir des drones multimissions, plus cette notion de perturbation va être prépondérante. Et donc, il va falloir anticiper tous ces cas-là et être capable de dire, finalement, il y a un niveau d'autonomie qui est variable. Quand on est en transit et que le drone doit suivre la force navale pour aller quelque part, on peut se permettre de l'automatiser quasiment complètement. Quand, par contre, on va être dans une opération délicate, et encore plus si on veut imaginer mettre en œuvre des armes, bien là, le niveau d'autonomie qu'on va déléguer au drone va finalement être restreint. Et l'équipage va reprendre la main beaucoup plus pour soit réaliser les missions de manière très séquentielle, soit même appuyer sur le bouton à distance quand on a besoin de faire quelque chose vraiment d'irréversible. Donc, notre point, c'est que les drones ne sont pas une déshumanisation. C'est au contraire quelque chose qui doit être conçu autour des hommes et pour les hommes. Ça, c'est la première chose. Qu'ensuite, on doit doser la technologie au juste nécessaire. Ce n'est pas qu'une problématique de trouver les meilleurs algorithmes. Bien sûr qu'il faut les trouver. Mais il faut les apprendre correctement avec des données pertinentes. Et dans le domaine naval, les navires militaires, on n'a pas énormément de cas d'usage pour pouvoir avoir des données massives pour faire de l'apprentissage d'algorithmes. On doit être capable donc de dire l'équipage peut superviser à distance, communication permettant, bien évidemment. Et puis ensuite, on doit finalement donner des... Alors, vous savez, quand on lance une torpille, on fait ce qu'on appelle un mur. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de programmer la torpille avec des algorithmes extrêmement sécuritaires pour qu'ils ne reviennent pas sur le navire qui l'a lancé. Et bien là, il faut faire l'équivalent d'un mur, de deux murs, de trois murs, d'une dizaine de murs qui vont encadrer de manière très sécuritaire la manière dont le drone va travailler. Par exemple, on va lui dire, en dessous d'un certain niveau de charge dans tes batteries, tu dois absolument remonter recharger. Tu ne peux pas te rapprocher de telle zone. Tu dois naviguer en sécurité de telle ou telle manière. Voilà. Donc c'est tout ça en fait qu'il faut mettre. Donc finalement, la relation entre l'homme et le drone, c'est quelque chose de très cadré, qui n'est pas la même, quel que soit le temps, quel que soit le contexte, qui se dose en matière de réflexion d'architecture et d'analyse fonctionnelle, qui intègre de la supervision humaine et qui intègre des systèmes de sécurité programmés en dur, donc sans algorithme, sans deep learning, qui permettent de maintenir le drone dans une zone de sécurité. Et c'est ainsi qu'on obtiendra le niveau de confiance attendu. Et puis la dernière condition pour ce niveau de confiance, je pense qu'elle est importante, c'est de se dire, alors si j'illustre le schéma, pardon, non, c'est pas celle-là, voilà. C'est de dire on a finalement une situation dans laquelle l'opérateur va donner la mission d'évoluer au drone, il va surveiller son fonctionnement, et un petit peu comme quand vous êtes avec votre GPS dans un tunnel, vous allez avoir à l'estime ce que le drone est en train de faire compte tenu de l'algorithme que vous lui avez programmé, compte tenu des murs que vous lui avez rentrés, et ce qui fait que l'équipage va pouvoir, en temps réel, avec le jumeau numérique du drone, se dire voilà ce qu'il est en train de faire. Voilà. Et comprendre ce que le drone est en train de faire, c'est le meilleur moyen pour avoir la confiance et pour se dire si quelque chose se passe mal, je sais comment réagir. Voilà. C'est vraiment important. La confiance, ça ne se décrète pas. Il y a énormément de choses à démontrer. Et le contrôle sera absolument indispensable. Et plus on mettra des niveaux de performance hautes dans les drones, plus il faudra que ce contrôle soit fort. Voilà. Et puis dernièrement, ça c'est plutôt du process, il faut qu'on implique les utilisateurs dans la conception dès le départ. Le pire serait de leur livrer un système, ayez confiance, le deep learning a appris, tout va bien se passer. C'est le meilleur moyen pour que les équipages n'aient absolument pas confiance dans ce qu'on va leur mettre entre les mains. Donc c'est un travail éminemment collaboratif, comme l'a dit mon collègue, de l'analyse opérationnelle, de l'expérimentation, est quelque chose de très itératif où l'équipage et l'utilisateur est au cœur du process.
Merci Monsieur Papin. Pour continuer dans cette réflexion de l'homme et de son rapport au drone, je souhaite interroger Frédéric Coste justement sur l'inconscient collectif et s'il accepte l'usage de ces drones. Et est-ce qu'on peut réellement évoquer le terme de déshumanisation concernant l'usage des drones? Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une combinaison entre robotique et intelligence artificielle?
Inconscient collectif, l'expression est, enfin, en sciences humaines est extrêmement casse-gueule. Excusez-moi de le dire comme ça, c'est un concept qui n'est pas très bien précisé. Donc, moi, je vais parler de perception collective à l'égard des drones. Je vais encore me positionner un peu plus sur les drones aériens parce que c'est ceux sur lesquels on a le plus de données. En fait, le problème quand on demande d'analyser les perceptions collectives, enfin les perceptions développées à l'égard des drones militaires, c'est l'absence de données. Il y a peu de sondages, il y a peu de... Donc c'est compliqué de qualifier cette perception, sachant qu'en fait, l'image est assez contradictoire. Il y a des faits positifs, il y a des éléments négatifs. Alors on a quand même quelques sources des productions cinématographiques, on a des argumentaires d'anti-drones qui portent en fait un certain nombre de critiques qui se diffusent, donc on a quand même quelques éléments à étudier. Ce qu'on constate pour les drones aériens, pour le moment je commence par là et j'essaierai de généraliser, c'est que ce qui a été très très critique à une époque, c'est que ces systèmes ont été le support pour pratiquer des targeting killings. Et en fait, les anti-drones ont énormément communiqué autour de ces emplois très particuliers des drones armés. Donc, c'est quoi les targeted killings? C'est l'utilisation de drones armés par les acteurs américains, essentiellement la CIA et britannique d'ailleurs, pour mener des exécutions ciblées des personnes particulières, exécutions extrajudiciaires. C'est l'expression qui avait été employée par l'ONU. Alors c'est des emplois qui ont été énormément commentés, qui ont suscité beaucoup de controverses. Pourquoi ? Parce que ces frappes ciblées avaient lieu sur le territoire d'États avec lesquels les États-Unis n'étaient pas en guerre. Donc c'est pour ça qu'on parle d'exécution extrajudiciaire. C'est en dehors du droit international humanitaire et du droit des conflits armés, en réalité. Alors, les Américains, qui sont très très bons juridiquement, avaient prouvé que non, c'était pas vrai, mais une lecture littérale du droit des conflits armés, normalement, on ne devait pas, enfin, devait prohiber, interdire ce type de pratique à partir du moment où les États-Unis n'avaient pas l'accord formel des pays sur lesquels ils pratiquaient les frappes. Donc, on a beaucoup, enfin, un certain nombre d'acteurs, notamment des ONG pacifistes, ont énormément communiqué autour de ces pratiques qui étaient ultra minoritaires en réalité dans l'utilisation qu'on a des drones, et ont laissé entendre que finalement c'était l'avenir du drone armé, que tout le monde allait faire ça, ce qui posait évidemment des problèmes juridiques et moraux. Ça a influencé la perception, semble-t-il, que les populations peuvent avoir des drones. Il y a également un autre élément qui est à la décharge des drones, c'est ce qui a été beaucoup mis en avant par d'autres intervenants au débat, c'est leur ressemblance avec les jeux vidéo. Et l'idée que finalement, pouvait se créer chez les opérateurs une confusion entre réalité et virtualité, c'est-à-dire un phénomène de déréalisation. Ce que je fais au travers de l'écran n'est pas vraiment réel, avec le risque d'un phénomène de déresponsabilisation. Il est clair, et ça a été prouvé maintenant, il y a eu des débats, mais maintenant, grâce aux neuroimages, on sait le prouver. La médiation technologique par l'écran est problématique. C'est-à-dire les gens qui voient notamment des images violentes à l'écran, ce qui peut être le cas d'opérateurs de drones armés, hein, au moment où ils frappent, la visualisation d'images violentes favorise la violence et abaisse en fait la capacité d'interaction avec les autres. On le sait, c'est prouvé maintenant. Alors vous verrez par la suite que ça peut se régler. Hein. Mais ça a également joué sur la perception que certains avaient des drones. Et puis il y a également, alors il y en a beaucoup d'autres, hein, une interrogation sur l'impact sur les valeurs militaires, et notamment sur la définition de l'honneur guerrier, et plus spécifiquement sur la notion de courage. C'est-à-dire que certains intervenants ont finalement avancé l'idée que le drone armé, pouvait être qualifié d'arme du lâche, puisque l'opérateur donnant la mort, frappant, lui était en sécurité physique, notamment pour les Américains qui opéraient leurs drones à plusieurs milliers de kilomètres des endroits où les drones allaient frapper. Alors, ça, c'est les éléments négatifs. Maintenant, pour les éléments positifs, parce qu'il y en a quand même. Ce qui a été relevé quand même par beaucoup de personnes, y compris des journalistes spécialisés en France, aux États-Unis, en Allemagne, c'est qu'employer des drones, ça permet d'éviter d'envoyer des hommes au sol, d'éviter d'envoyer des hommes dans les cockpits des avions, ou même de diminuer potentiellement, voire de faire disparaître les équipages. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la sauvegarde de personnel, potentiellement. Or, nous sommes, en Occident, dans des sociétés qui ont du mal à accepter la mort guerrière. On a eu un épisode très particulier qui a été très, très intéressant sociologiquement à étudier, c'est Usbin. Et donc, ce n'est pas une aversion, mais en tout cas, il y a une difficulté à accepter les morts, y compris celles de militaires, alors que même que le militaire, c'est la nature même de son contrat avec la société et l'État, prend le risque de mourir. Donc, éviter de mettre en insécurité des militaires, c'est quelque chose qui, mine de rien, résonne dans les populations. Et puis, il y a un dernier élément positif, et après je passe à la déshumanisation, mais je vais aller très vite. Quand on a commencé à développer des drones armés et à les utiliser, notamment à partir de 2009, les États-Unis, seule une petite élite entre guillemets, de pays disposait de drones armés. Et donc, dans les perceptions, faire partie du club des pays dotés, c'était un regain de prestige. Maintenant que ce type de plateforme s'est disséminé assez largement, ne pas être équipé de drones armés, c'est un aveu de faiblesse, et ça, les sondages le montrent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de populations dans lesquelles, de pays dans lesquels les populations ne comprennent pas pourquoi les gouvernements ne veulent pas armer leurs drones et considèrent que c'est un aveu de faiblesse. Donc vous voyez, il y a à la fois des éléments positifs, à la fois des éléments négatifs. Maintenant, sur la déshumanisation, je vais très vite. La déshumanisation concernant en fait, les robots en général, les drones, il y a deux éléments, il y a deux acceptions en termes, deux définitions. La première définition, c'est la déshumanisation comme moindre présence de l'homme sur le terrain. Et c'est la fonction, finalement, des systèmes autonomes, des systèmes téléopérés. C'est d'éviter d'envoyer des hommes sur le terrain. C'est l'équivalent d'une baisse de la densité humaine. Or, certains observateurs, à nouveau, notamment parmi des ONG pacifistes, ont mis en avant un risque, c'est qu'avec la baisse du nombre de personnels déployés sur le terrain, puisque compensés par des systèmes robotisés, autonomes, le risque est que la décision d'employer la force soit plus facile à prendre pour les gouvernements, puisque les enjeux sociétaux seraient moindres. Et donc, le développement et le déploiement d'un plus grand nombre de systèmes robotisés, autonomes, quel que soit le type de drone, pourrait amener un abaissement du seuil d'utilisation de la violence. La deuxième acception de la déshumanisation, Et là, c'est la signification première de la déshumanisation. C'est le fait, au sens psychologique et cognitif du terme, de priver en fait un individu ou un groupe d'individus de son caractère humain. Alors, il y a beaucoup de techniques pour déshumaniser. Une des techniques les plus communes est de ramener l'individu ou le groupe d'individus à un animal. Quand vous dites « salara », vous déshumanisez, vous retirez la qualité d'humain à la personne que vous injuriez. Ça veut dire que, évidemment, il n'a plus la même valeur. Et déshumaniser, c'est un mécanisme psychologique en réalité naturel. Alors, ça peut choquer. Pourquoi on le développe ? C'est tout simplement pour rendre acceptable la souffrance qu'on perçoit chez autrui. Y compris d'ailleurs chez des tortionnaires. C'est pour être en capacité de torturer qu'ils déshumanisent. Parce que sinon, s'ils font preuve d'empathie, psychologiquement et même psychiatriquement, c'est très très dur à accepter. Or, ce qu'on constate, c'est que l'éloignement physique de la zone d'opération et le médium de l'écran favorisent, et ça on a très nombreux travaux en psychopathologie notamment, favorisent en fait ce qu'on appelle l'éloignement émotionnel. C'est quoi l'éloignement émotionnel ? C'est face à une situation, quelle qu'elle soit, positive ou négative, comme vous le ressentez, c'est l'affaiblissement des affects et des sentiments que vous ressentez face à la situation. Le dégoût, la peur, la colère, etc., etc. Donc, en fait, éloignement physique, le téléopérateur qui n'est pas sur la zone d'action et le médium de l'écran amène un éloignement physique, et l'éloignement physique est une des conditions de la déshumanisation. C'est-à-dire que quand on est dans à travers un écran loin de l'espace d'action, eh bien, il y a plus de chances qu'effectivement on déshumanise l'adversaire. Et c'est mécanique. Chez certaines catégories de population avec des profils psychologiques particuliers. Il y a une question de personnalité. Donc, déshumaniser, oui et non, chez certaines personnes, et il y a des mesures correctives qui peuvent être mises en place, notamment la formation morale des personnels, la déontologie, l'encadrement, la sensibilisation des personnels à ce type de réaction psychologique, la sensibilisation de l'encadrement, des cadres, et même des mesures organisationnelles, comme par exemple le fait de toujours être en équipe pour superviser des drones. Voilà, il y a beaucoup de choses qui permettent de limiter ce phénomène de déshumanisation. Je finis par là sur l'IA. Évidemment que l'introduction de couches de plus en plus développées d'autonomie va favoriser cette déshumanisation par la perte de lien direct entre l'opérateur et ce qu'il fait. Il va y avoir un médium, c'est le système. Et donc, il va y avoir un phénomène de déresponsabilisation. Ça n'est pas moi qui ai décidé, c'est le système qui a pris la décision. Et donc, de déshumanisation potentielle.
Merci M. Cos pour ces propos très éclairants et sur l'éloignement physique qu'offre et en même temps porte le drone, ce qui nous amène à nous interroger sur les questions d'autonomie que je souhaiterais poser à Lionel Collot au regard des progrès actuels. Peut-on penser que les drones seront totalement autonomes d'ici une dizaine d'années ? Et ce qui vient aussi se poser la question, ça a déjà été un peu abordé sur la combinaison en fait avec l'intelligence artificielle, si elle offre la possibilité de dépasser les capacités humaines.
Alors, je pense que beaucoup a déjà été dit. Je suis relativement en phase avec ça. Pour ce qui est de la capacité d'autonomie à 10 ans, je pense qu'il faut faire un distinguo entre les types de drones, et je reviendrai sur le distinguo qu'on a fait au départ entre les drones organiques et puis les drones océaniques. Je dirais que pour les drones océaniques, on a une problématique qui se pose au-delà des équipages, qui est la problématique de maintenance. Ce sont des gros drones qui sont faits pour assurer de la permanence sur le long terme. Qui dit permanence sur le long terme dit panne, quelque part, de sous-système. Et donc une véritable problématique de maintenance qui d'ailleurs peut, a pu amener certains États comme les États-Unis à se poser la question de retarder un petit peu leur mise en service. Pour ce qui est des drones organiques, on a une véritable réutilisation hein, des systèmes d'autonomie, ce qu'on appelle des kits de dronisation, pour la plupart développés dans le cadre des drones aériens et repris dans les drones maritimes. Alors là aussi, il y a un véritable foisonnement. Il y a énormément de sociétés qui maintenant développent ces technologies-là, à plus ou moins haut niveau de maturité par rapport au niveau d'autonomie. Hein. On les rappelle, autonomie de navigation, autonomie de d'évitement, anti-collision, autonomie de mission, jusqu'à de l'autonomie collaborative. À tel point qu'on a vu des drones, dont le Mei 2 par exemple, traverser l'Atlantique. Hein, donc on parle de 4000, d'une navigation de 4000 milles totalement autonome. Et puis ce foisonnement fait que le nombre de sociétés qui travaillent sur le développement des modules de l'autonomie est maintenant très important, à tel point que ça devient un code, ça devient quelque chose qu'on peut acheter pour transformer un bateau en drone. Alors, encore une fois, jusqu'à un certain niveau d'autonomie. Et je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, on a des pays qui disent ben, « moi, je sais fabriquer des bateaux, j'ai des coques, et donc je veux utiliser mes coques pour les transformer en drones ». Donc là, on a besoin de modules d'autonomie, et ça se développe de plus en plus. On a vu également des sociétés, là, il y a une véritable transformation également technique, des sociétés qui sont dans le domaine de l'information et des technologies qui, elles, achètent des drones, achètent des fabricants de drones pour avoir une offre complète. Donc là, il y a une espèce d'inversion des valeurs par le haut où le drone, le vecteur, devient un moyen qu'on va acheter pour le transformer en une offre un peu plus complète. Maintenant, cette notion de capacité, et je pense que sur des petits drones, on arrivera effectivement à 10 ans à une autonomie complète. Encore une fois, ça dépend jusqu'à quel niveau on va en termes de collaboration avec les autres et d'autonomie de mission et d'autonomie collaborative. Au-delà de ça, au-delà de la capacité technique, c'est surtout l'usage qu'on en fait. Et surtout la confiance qu'on va donner à ces systèmes de drones-là, de manière à les utiliser sur des champs d'opération. Alors, là, je vais rebondir sur le titre, hein, mais qui est volontaire, de cette table ronde, la désimmunisation, qui est un petit peu provocatif. Jusque-là, ce qu'on a développé en termes de drones, enfin, le premier système de drones développé était pour adresser dans le naval le domaine de lutte, qui est la lutte contre les mines. Alors, petite parenthèse, d'ailleurs, les mines marines sont quand même des objets, on ne peut pas les qualifier de drones, mais sont quand même des objets autonomes, hein, des objets doués d'une intelligence et qui vont rester au fond de l'eau ou entre deux eaux pendant un certain temps jusqu'à ce que leur électronique leur permette de reconnaître un type de bateau, voire un bateau particulier, une signature acoustique, électrique, magnétique, et aller exploser sur un bateau particulier. Donc, c'est déjà autonome. Dans le domaine de la lutte contre les mines, on a développé des systèmes de drones. Et là, on est vraiment sur du système avec plusieurs types de drones de surface, des drones sous-marins. Et là, au contraire, on l'a fait pour protéger l'homme. Pour protéger l'homme, parce que ce sont des missions qu'on appelle souvent 3D, c'est-à-dire Dirty, Dull and Dangerous, qui sont typiquement, qui ont un caractère, qui peuvent avoir un caractère rébarbatif et qui peut être dangereuse, parce qu'on fait rentrer l'homme à bord de bateaux dans le champ de mine, hein, des bateaux dont la signature est réduite de manière à ce que le bateau n'ait pas explosé si une mine se trouve dans les parages. Donc là, on a une capacité de protection de l'homme, parce qu'on va envoyer des drones à la place. Et au 3D dont je parlais, je rajoutais même un 4e D, qui est la notion discret. Les opérations amphibies, il est évident que quand on va aller attaquer un pays ennemi sur ses côtes, il aura pris la précaution de mouiller des mines et donc avoir besoin d'aller éliminer toutes ces mines avant d'aborder les côtes. Et on a besoin de le faire en toute discrétion. Et là, les drones permettent de le faire. Ce faisant, on a une véritable économie humaine au niveau du nombre de morts qu'on peut imaginer. Donc le bon exemple, c'est effectivement la protection de l'homme. Et le fait de pouvoir le concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée. Donc on parlait jusque-là d'hommes dans la boucle. On va parler de plus en plus de man on the loop, d'hommes sur la boucle. C'est-à-dire que l'homme, il est là il observe ce qui se passe, il a la capacité d'interagir, il a surtout la capacité d'être en prise de décision sur les décisions critiques d'avoir un aspect de synthèse sur les événements. Donc on retrouve tout à fait le triptyque qui était montré tout à l'heure, hein, entre la préparation de mission, le suivi de mission et la prise de décision. Ça, c'est absolument essentiel quand on parle d'autonomie. Pour ce qui est de l'intelligence et donc de l'intelligence artificielle, on parle plus d'intelligence augmentée. C'est-à-dire qu'à la réponse à la question « Est-ce que l'intelligence artificielle va faire mieux que l'homme ?» j'aurais tendance à dire « L'intelligence artificielle va aider l'homme à faire mieux ». Qu'est-ce qui se passe pour continuer sur l'exemple de la guerre des mines, hein, qu'on connaît bien? On utilise des sonars très résolus qui vont aller prendre des images du fond des mers, et dans ces images-là, on va essayer de reconnaître parmi tous les objets des objets qui potentiellement sont des mines. On veut le faire avec un bon niveau de définition, parce qu'on n'a pas envie d'aller intervenir sur tous les cailloux en disant c'est potentiellement une mine, et à chaque fois s'arrêter, aller prendre une demi-heure, aller voir ce que c'est pour rien. Et en même temps, on ne veut pas en laisser passer à côté, on ne veut pas pas de fausse alarme et pas d'oubli. Ça, c'est absolument essentiel. Donc la prise de décision est importante. Ce faisant, les images qui sont générées sont faites avec des sonars qui offrent une résolution d'un pouce. Donc vous imaginez sur un sonar qui voit à 200 mètres de chaque côté de lui des images d'un pouce de résolution, vous imaginez le nombre de pixels que ça fait. Les premières marines qui ont utilisé ces systèmes-là ont parlé de tsunami de données. Donc on a un tel nombre de données qu'on est finalement complètement submergé, on ne sait pas comment les traiter. Et là, effectivement, si on ne veut pas passer des jours et des jours à analyser des images, parce qu'on n'a pas le temps d'abord, il faut qu'on soit capable d'intervenir et puis d'aller traiter une zone. L'intelligence artificielle est très utile, mais elle est très utile dans une philosophie où elle ne fait pas le travail à la place, elle fait à la place de l'homme les tâches rébarbatives, c'est-à-dire je vais récupérer les images, je vais déjà filtrer un premier niveau d'image. Ensuite, découper les objets, déterminer la taille des objets et le faire à la place de l'homme. Mais on laisse l'homme prendre la décision à la fin sur les objets et avec l'intelligence qu'il a, d'aller discerner correctement ce qui est une mine avec un bon niveau de probabilité de ce qui n'en est pas une. Alors, on l'a fait sur des exercices. Je pourrais citer Unban Warrior, qui était au large de l'Écosse il y a quelques années. Les chasseurs de mines conventionnels ont essayé de traiter la zone et pour m'y être rendu, la zone était à marée basse remplie de cailloux un peu cylindriques de la taille de diamètre 80 cm en mètre, donc des choses qui potentiellement pouvaient ressembler à une mine. Les chasseurs de mines conventionnels sont allés, sont ressortis en disant bon, la zone n'est pas vraiment chassable. Les systèmes automatisés de drones ont pu faire le travail et ont pu, dans cet écosystème d'objets multiples, aller faire la détermination, la détection, la classification des mines qui étaient présentes. Donc on a un très bon niveau de résultat et on a un niveau d'augmentation de l'intelligence humaine et qui permet de concentrer l'homme sur la bonne tâche. Ce qui est sûr également, et là au-delà de l'intelligence humaine, c'est la capacité du drone d'être en veille 24 heures sur 24, d'offrir de la permanence, d'offrir toujours le même niveau je dirais, de confiance une fois qu'on le connaît. Et puis, au-delà de ça, c'est la capacité à aller profond. Quand on parle de la maîtrise des fonds marins et quand il faut descendre jusqu'à 6000 mètres, il est bien évident qu'on ne va pas pouvoir le faire avec des moyens habités. Donc là, les drones sont absolument irremplaçables. Et en plus, on ne va pas leur demander de remonter systématiquement. Donc on aura un besoin d'une autonomie et d'une autonomie de confiance. Je dirais, dernière étape, quand on parle de l'évolution de ces systèmes-là, on a pu remarquer que les drones de surface, les USV, pour Unmanned Surface Vessel, jusque-là était toujours, comme on le dirait en anglais, manable. On a toujours une cabine à bord qui permet de mettre quelqu'un dedans. Et c'est maintenant qu'on commence à voir arriver des USV qui n'ont plus du tout de cabine et donc dont on ne prend pas l'option dès le départ de la construction de revenir en arrière et de mettre quelqu'un à bord. Donc ça, c'est une véritable évolution, donc d'un côté technologique et d'autre côté de la confiance qu'on peut apporter à ces systèmes.
Je vous remercie, Monsieur Collot, et je souhaite continuer cette conversation autour des questions. Justement, vous avez évoqué la protection de l'homme, mais il y a aussi la protection des unités marines. Et cette thématique, je souhaiterais l'aborder avec Monsieur Papin et Monsieur Collot sur justement comment protéger ces unités marines et les sites côtiers vitaux contre la menace des drones, car c'est un fait. Et aller un peu plus loin aussi sur ces questions, sur les essaims de drones. Et une dernière question qui sera adressée à M. Coste sur les perspectives qu'on peut en déduire, appliquées à la Méditerranée et au Moyen-Orient.
Oui, alors, déjà, ça a été dit, mais les drones, c'est un peu comme le glaive et le bouclier. C'est-à-dire que plus ça avance, et plus c'est discret, plus c'est difficile à détecter. Bon, heureusement, les systèmes de détection progressent aussi. Mais voilà, on n'est jamais arrivé au bout. Hein, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, les unités marines qui sont aujourd'hui à la mer hein, ont été conçues à une époque où même s'il y avait des drones dans les années 60-70, c'est quand même pas très fréquent. Et donc, il est important de pouvoir savoir finalement quelle est l'efficacité des systèmes de détection à bord des navires par rapport à cette nouvelle menace. Alors, vis-à-vis des menaces, on va dire des drones assez classiques, c'est déjà couvert par des systèmes qu'on appelle les luttes contre les menaces asymétriques, qui sont déjà conçus pour détecter des objets petits, furtifs, ayant des comportements atypiques. Et donc, on aide les navires et de plus en plus hein, à avoir ces systèmes-là, et on aide l'équipage à interpréter les comportements de manière à savoir si c'est agressif ou pas. Et là encore, c'est l'équipage qui va mettre en œuvre la parade. Si maintenant je regarde le sujet des essaims de drones, il y a quand même une particularité, c'est que quand vous voulez connaître une menace, si vous n'êtes que le navire qui potentiellement y est confronté, c'est pas très facile d'imaginer toute la forme que la menace peut prendre. Donc nous, on a pris une approche résolument peut-être un peu étonnante, mais on s'est dit, pour bien comprendre la menace que représentent les essaims de drones, faisons nous-mêmes des essaims de drones. Et regardons comment, si on était à bord d'un bateau, on utiliserait les essaims de drones pour apporter une menace vis-à-vis de l'ennemi. Et donc, on a fait ce que je prenais tout à l'heure, c'est-à-dire des alternances entre des études théoriques et puis de l'expérimentation, pour regarder comment les navires d'aujourd'hui confrontés à un essaim de drone allaient pouvoir se comporter. Et puis ensuite, on s'est dit comment est-ce qu'on peut utiliser les essaims de drone à notre profit. Donc si je prends un petit schéma, déjà ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui on a une vision des essaims de drone qui est essentiellement aérienne. Vous avez tous le premier rang, le 1er janvier en Chine ou à Singapour, et on imagine un essaim de drone, c'est ça, ça fait des beaux dessins dans le ciel. Bon, c'est pas ça dont on parle, ça peut être ça, mais ce dont on parle, c'est quelque chose qui va être finalement des centaines d'objets qui vont à un moment donné avoir un comportement peu prévisible, qui vont s'éclater dans le ciel, ou au contraire se rassembler avec des variations de vitesse, qui vont arriver dans toutes les directions. Et pour les systèmes de détection à bord des bateaux, c'est des objets finalement très très difficiles à détecter. On a fait une expérimentation, on est en Méditerranée là, à Toulon, on a fait une expérimentation à Toulon avec des drones, hein, et on a vu ce que ça représentait. Alors on les détecte, mais on peut pas garantir qu'on va pas en rater un sur une centaine, en fait. Et c'est là finalement qu'est la difficulté, c'est de trouver des systèmes. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on en trouve. Parmi tout le panoplie de senseurs qui abordent un bateau, si on les combine intelligemment, on arrive à trouver la combinaison entre le radar, la guerre électronique, l'optronique, pour finalement couvrir l'ensemble de la menace. Mais une fois qu'on l'a identifié, il faut encore pouvoir réagir. Et donc là aussi, on travaille avec des partenaires, hein, c'est très collaboratif ces travaux-là, pour essayer de se dire quels sont les moyens. Alors ça va de j'envoie un rayonnement électromagnétique très fort je les aveugle avec un laser, donc je pointe une centaine de drones l'un après les autres avec le laser, ou alors je méthode encore plus bourrine, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est je balance dans le ciel des choses un peu mécaniques qui vont les détruire. Bon. Donc en fait, vous voyez que ça pose des problématiques qui sont pas faciles. Nous, notre partie, c'est d'essayer de travailler sur les essaims de drones. Et vous voyez le petit dessin en bas à gauche, c'est tout ce qu'on peut imaginer comme façon de mettre à l'eau des essaims de drones ou de mettre en l'air des essaims de drones. La première remarque qu'on dit, c'est quand on est loin des côtes, on n'a pas de problème. Ben, en fait, si, on peut en avoir, parce que les essaims de drones, ça peut être largué par un avion, ça peut être emporté par un navire qui les met à l'eau et puis ensuite ça vit sa vie. Donc ça représente quand même des menaces assez variées. Et là, on parle d'essaims qui ont un comportement, on n'est pas sur les essaims de moineaux, hein. On est sur des comportements qui sont très programmés, mais quand on commencera à avoir une intelligence vraiment situationnelle embarquée à bord de ces engins-là, ça va être quand même quelque chose d'assez important. Voilà. Donc, ma réponse, elle n'est peut-être pas très rassurante, mais déjà, un, on a des systèmes de lutte contre les menaces asymétriques, on a des systèmes de détection, et on peut déjà faire des choses pour la menace telle qu'elle est aujourd'hui. Par contre, on ne sous-estime pas la menace à venir, et c'est vraiment l'expérimentation et la recherche avec des partenaires qui peuvent avoir des systèmes de lutte anti-drone qu'on va pouvoir savoir comment équiper les bateaux futurs, et il faudra être très évolutif et incrémental dans l'équipement des navires pour s'adapter finalement à l'évolution de la menace.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, puis on travaille de concert sur un certain nombre de sujets. Je pense qu'il faut voir pour cette question les quatre espaces de conflit. Puis on va s'apercevoir aussi que les drones sont une menace, mais peuvent être aussi une opportunité. Évidemment, hein, alors si on parle de haute mer, on a vu déjà des CONOPS américains où une unité de valeur est entourée de drones de plus en plus petits, un drone de surface, et qui ont pour but de détecter et puis d'être pris pour cible avant l'unité de valeur. Donc ça, c'est déjà une première protection. Au-delà de ce dont on vient de parler, avec les armes à énergie dirigée notamment, et puis évidemment la conduite de tir, hein, puisque là, quand on a un essaim de drones ou des drones qui sont de petite valeur, on imagine bien qu'il faut une riposte appropriée, mais en tout cas, on ne va pas aller envoyer un missile sur chacun des drones. On serait vite à court. Quand on parle du littoral, alors si le littoral, quand on parle de notre littoral, hein, de la protection, les drones, eux, peuvent offrir une permanence, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire être là, H24, avec un certain nombre de drones qui travaillent en collaboration, donc qui font de la détection, avec une unité de valeur ou avec un centre à terre. On a également des notions de barrières acoustiques qui permettent de détecter les intrusions de drones sous-marins. Et puis, on peut travailler sur la conjugaison des types de drones. On a, par exemple, récemment fait, dans le cadre des essais de l'OTAN REPMUS au Portugal, utiliser des VTOL en relais de communication avec des bouées. Pour ce qui est du littoral en projection, effectivement, on sera en OPEX, donc avec des moyens, on peut imaginer, un peu plus limités. Les drones offrent quand même la capacité d'être souvent aérotransportables. Donc on peut imaginer qu'avec un certain nombre de rotations d'A400M, par exemple, on soit capable de mettre sur la côte dont on a pris possession un certain nombre de drones, des centres d'opération à terre, et puis de pouvoir apporter de la sécurité à cette zone qui a été récemment traité. Et puis pour la profondeur, évidemment, le seabed, on en a déjà parlé, c'est évidemment un espace où les drones seront indispensables. On peut avoir des barrières acoustiques, bien évidemment, mais après on parle d'aller intervenir et d'aller se protéger. Donc le drone, oui, peut être une réponse sur tous ces espaces-là, avec un certain niveau d'intelligence et je dirais surtout un certain niveau de coordination au niveau système, et au niveau système de système et au niveau conjugaison des différents types de drones dont on va avoir besoin, des drones aériens, des drones de surface et des drones sous-marins.
Alors moi, si je me souviens bien, c'était une question plus large qui mériterait sans doute une thèse. Donc les drones peuvent-ils changer la nature de la guerre ? Vous avez commencé à traiter un peu la nature des opérations maritimes. Les drones en tant que tels, non. Je ne pense pas. D'abord parce que le développement des drones, encore à l'heure actuelle, s'installe en fait dans des tendances de très très long terme. La première tendance, et là c'est une tendance de l'humanité depuis qu'elle se bat, c'est à la prise de distance entre les adversaires. C'est-à-dire, les drones, ça permet de mettre le combattant, théoriquement, hein, à distance de sécurité de son adversaire. Or, dès le néolithique, quand on prenait une pierre et qu'on l'achetait sur son adversaire, si on avait un bras plus puissant, on était en sécurité et il n'était pas capable de nous atteindre. Donc, on est toujours dans la même logique. On est également dans une prise de distance cognitive qui, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale et les progrès de l'électronique dans les années 50 et 60, cette prise de distance cognitive, c'est-à-dire on ne voit plus son adversaire directement, on le voit à travers d'écrans, ça n'est pas non plus une nouveauté. Les drones ne font que continuer une tendance de long terme. De la même manière, l'utilisation du drone comme effecteur, que ce soit pour du renseignement, que ce soit pour de la frappe, peu importe ce qu'on lui fait faire, en l'utilisant de manière déportée, enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Océane, c'est quand même la Première Guerre mondiale. Je veux dire, pour les philo guidés, que ce soit les philo guidés terrestres, on en a des utilisations. Alors, avec les technologies de l'époque, et ça n'a pas très très bien marché, quoique. La première dronisation des avions, c'est les années 20, si je me souviens bien. On était très bons d'ailleurs, très très bons. Puis, pour des sombres histoires institutionnelles de répartition de pouvoir entre les armées, les programmes ont été arrêtés, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça. En tout cas, de la même manière, on est dans une tendance de très très long terme. Donc, à nouveau, là, sur l'utilisation de la déportation pour contrôler le moyen d'agir sur le théâtre d'opération. On a également une tendance de très très long terme maintenant, en aéronautique, mais également dans le domaine maritime, qui est le transfert de tâches à la machine. L'évolution des cockpits, ça date des années 50 et 60. Hein. Donc, éviter la surcharge de l'opérateur humain, du pilote, notamment la surcharge cognitive, trop d'informations qu'il n'arriverait pas à traiter, et donc demander au système de prendre en charge un certain nombre de tâches, c'est quelque chose qu'on fait depuis les années 50-60. Donc, une grande partie des développements propres aux drones, à la dronisation, c'est des choses qu'on travaille technologiquement. Alors évidemment, les technologies évoluent, hein, depuis très 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 longtemps. Enfin, la dernière tendance, la numérisation et la digitalisation, c'est pas... Alors, certes, on est dans cette révolution, mais elle a quand même quelques décennies. Donc, le fait d'utiliser les données, de les transmettre, d'intégrer les drones, quels qu'ils soient, dans des systèmes de systèmes, c'est quelque chose qu'on pense depuis déjà plusieurs décennies. Donc, est-ce que ça révolutionne la manière de faire la guerre ? Non. Par contre, là où il y a un véritable changement, et on l'a déjà abordé, c'est le couplage des plateformes sans personne à bord avec l'autonomie des systèmes, et notamment l'autonomie décisionnelle. Et là, c'est quelque chose de nouveau. C'est un objectif qui, en réalité, est très, très, très ancien, depuis la cybernétique. Il y a eu des appellations progressives différentes de l'intelligence artificielle. Là, ce qui fait qu'on touche un peu plus du doigt l'autonomie décisionnelle, c'est les apports, les progrès dans différentes technologies, types de technologies, les capteurs, la transmission des données, la fusion des données, le traitement des jeux de données massifs, l'apprentissage machine, le fait que la machine soit capable par elle-même d'apprendre à partir des données. Tout ça fait que l'autonomie décisionnelle est sans doute... un objectif, alors, jusqu'à certains, enfin, il faut voir quel type d'autonomie décisionnelle, mais en tout cas, on progresse. Et c'est ça, à mon avis, la vraie révolution. Et cette autonomie, on le voit, on l'a vu dans les discussions, elle pose quand même fondamentalement la question de la répartition des tâches entre l'homme et la machine. On parle d'un homme qui... par sa valeur ajoutée d'homme, avec ses mécanismes cognitifs propres et intellectuels propres, va prendre, supervise et prendre les décisions de haut niveau. C'est quoi une décision de haut niveau ? Il y a encore des travaux à faire, il y a beaucoup de travaux à faire pour trouver la répartition, la bonne répartition des tâches entre l'homme et la machine, et donc de trouver le niveau d'autonomie, si tant est qu'on puisse encore progresser, ce qui semble être le cas, en matière de processus d'autonomisation décisionnelle pour la machine, quel est le bon niveau d'autonomie pour la machine ? Donc, là, il y a encore beaucoup de travaux, mais ça, à mon avis, c'est beaucoup plus important que la simple amélioration des drones en tant que plateforme eux-mêmes. Même si il faut que les drones soient plus efficaces, meilleurs, enfin plus performants pour que l'autonomie qu'on leur, leur greffe puisse être potentialisée.
Merci, Monsieur Kos. On peut prendre ces propos comme à titre conclusif. Et je souhaiterais aussi demander à Monsieur Papin et Monsieur Collot quelles idées forces on pourrait tirer de l'ensemble de vos interventions en une phrase avant de laisser la parole à la salle.
Je vais conclure rapidement. Bon, je pense que la première chose, c'est que personne ne doute de l'intérêt des drones pour décupler les performances de la force navale. Bon, après, c'est une fois qu'on a dit ça, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps. C'est un sujet compliqué, que ça soit automatiser des systèmes, reproduire le comportement d'un équipage à bord d'un drone, trouver le bon niveau de répartition d'autonomie entre les hommes et l'autonomie décisionnelle. Ça va nécessiter beaucoup d'itérations entre les concepts d'emploi, la manière dont les équipages vont s'approprier ces technologies, la montée en maturité des technologies, l'expérimentation. Voilà, donc, quand un truc est compliqué, généralement, plus on le démarre tôt, plus on a des chances de le réussir. Voilà, donc, nous, c'est notre combat. La deuxième chose importante, c'est que l'homme restera donc dans la boucle, hein, et plus les missions seront délicates, plus les missions porteront des actions irréversibles, et plus il faudra que le contrôle qu'on exercera sur les drones soit sécuritaire, et plus il faudra que l'homme, avec la décision qu'on lui proposera, soit celui finalement qui hiérarchise et qui décide d'appuyer sur un bouton. Le marin, la chaîne de commandement restera importante. Puis le dernier point, c'est quand même que tout ça, ça ne doit pas être vu comme des systèmes en plus qui s'ajoutent un peu comme des systèmes juxtaposés aux systèmes de combat et des systèmes de management de plateforme des navires. Ça doit être intégré complètement, fonctionnellement, pour qu'on n'ait pas, en plus de l'effort intellectuel de décider, un effort de fusion d'informations entre une console qui serait dévolue au drone et puis le reste du système de combat qui serait parfaitement intégré. Il faut faire ce travail d'intégration, et c'est ambitieux, hein, mais il faut que ça soit à la fois l'allocation de mission, qui doit être fait comme on fait une allocation entre un senseur, une arme, et puis la réception des informations. Voilà, c'est vraiment les points que je souhaite que vous reteniez.
Alors, de mon côté, je dirais que la première chose, c'est que c'est inéluctable. Hein, les drones arrivent et de toute manière, c'est un enjeu majeur, à la fois une menace, mais aussi une opportunité. Donc le naval ne sera pas en reste. Hein, les drones arriveront tous, avec une difficulté de choix, bien évidemment. Le deuxième point, c'est que cette notion de drone, elle n'est pas dissociable de l'intégration dans une force, donc de l'intégration avec des systèmes habités. C'est un vecteur au service d'une certaine fonction. Ce qui suppose de prendre le sujet par le haut, hein, ne pas oublier, au-delà de l'offre pléthorique, je dirais, de système, de prendre la chose par le haut et la notion de système, comment est-ce que je vais intégrer et comment est-ce qu'à la fin, je veux que mon concept soit bâti. Et la dernière notion, c'est la notion de confiance. Hein, je pense que c'est une des barrières majeures à l'adoption dans les forces. On a besoin de faire un choix raisonné. Parmi tout ce qui existe aujourd'hui et tout le champ des possibles, hein, parce qu'évidemment, avec l'évolution rapide de la technologie, on a beaucoup de questions qui arrivent quant au fait de faire le bon choix, les bonnes plateformes, les bonnes tailles, les bons types de drones. Et on aura besoin, pour faire le bon choix, faire un choix raisonné, de continuer à travailler sur cette approche. Définition des CONOPS, utilisation versus démonstration pour voir quel champ des possibles, de manière à avoir un choix qui est fiable et qui est bâti sur des références et des crédentiels.
Je vous remercie. À présent, je laisse la parole à la salle si vous souhaitez poser des questions aux intervenants. Oui.
Bonjour, Thomas Passoleg, étudiant. On voit que les Américains avec le X-47B ont réussi un premier appontage sur un porte-avions. On voit que les Turcs cherchent à intégrer leurs drones sur le TCG Anadolu. Pensez-vous qu'il y a de l'avenir à ce que l'on pourrait appeler des porte-drones ? Merci.
Est-ce qu'il y aurait une seconde question ? Comme ça, on prendra un... Oui, là-bas.
Oui, bonjour. Donc, Monsieur Darroux, DGA. Au sujet de la maintenabilité des drones océaniques, donc j'ai bien noté que c'est un sujet qui sera important, mais est-ce que vous comptez vous inspirer éventuellement de ce qui se réalise dans le spatial quand on voit qu'on est capable de dépanner un rover sur Mars ou un satellite à distance, avec quels sont les impacts effectivement en termes d'architecture du drone et de systèmes redondants?
Donc, sur la première question, sur navire porte-drone, oui, bien sûr. Hein, en fait, tous les navires devraient devenir des navires porte-drone. Simplement, ils ne vont pas porter les mêmes drones. Et donc, on peut imaginer des navires vraiment très spécialisés. On évoquait la guerre des mines. Il y a des navires qui sont très spécialisés pour emmener des drones de guerre des mines. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent être spécialisés pour emmener des drones aériens, qui peuvent être soit des drones de surveillance, soit éventuellement des drones de combat le jour où on en aura. Donc c'est un concept intéressant. Maintenant, là encore, analyse de la valeur. Comment est-ce que ça s'intègre dans une force navale? Est-ce qu'on peut se permettre de n'avoir que des navires qui, enfin, d'avoir des navires qui ne font que ça? Moi, je crois plus à des navires qui vont être capables de mettre en œuvre des drones en plus de ce qu'ils font déjà. Et puis, à part la guerre des mines, dans un deuxième temps, peut-être le jour où ça sera vraiment très répandu, on aura accompagnant la flotte navale, comme on a un bateau de ravitaillement, eh bien, un navire porte-drone qui gérera finalement tous les drones qui sont pour faire notamment la maintenance. La deuxième question, très vite, dépannage d'un drone. La différence avec le spatial, c'est que finalement, on l'a vu cette nuit avec la sonde là, qui, à 20 000 km par seconde, a percuté une météorite. Ça a un avantage énorme, c'est que c'est prédictible et finalement, on a quand même un peu de temps devant soi. Même quand on dépanne le rover Curiosity sur Mars, on a un peu de temps devant soi. C'est-à-dire qu'on peut lui dire d'arrêter, voilà. Il peut rester 3 jours au même endroit. Pendant ce temps-là, on réfléchit, on lui envoie ce qu'il doit faire et il le fait. La difficulté du drone naval, c'est le milieu. En fait, il est en permanence en mouvement et on ne peut pas lui dire à un moment donné, tu t'arrêtes, on réfléchit et puis on va te dire quoi faire. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une réflexion et c'est à mon avis celle qui va être la plus compliquée. Ce n'est pas tellement automatiser les systèmes, ce n'est pas tellement automatiser ce que fait l'équipage en termes de mission, c'est automatiser ce que fait l'équipage en lutte contre les sinistres et en maintenance embarquée. Parce que ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, sont complètement la prérogative de l'équipage et sur lesquelles on a assez peu réfléchi à la manière de l'automatiser. Donc, on peut traiter le problème en disant je mets des redondances partout et puis je perds la file 1, la file 2, la file 3. Mais ce qu'on veut, on ne l'a pas dit, hein, mais je veux quand même le dire, ce qu'on veut, c'est que les drones ne coûtent pas cher. Parce que, donc, voilà. Et donc, si on commence à redonder tout ça, je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc, il faut trouver, là encore, l'intelligence de redonder ce qui est nécessaire et de pouvoir dépanner intelligemment ce qui ne peut pas être fait à distance.
Je compléterai juste par rapport à la notion de navire porte-drone. Je pense qu'il sera intéressant de voir ce que les Anglais mettent au point comme concept, en tout cas, ce à quoi ils réfléchissent. Donc là, on parle de la type 32. Qui ne va pas de manière isolée, elle va avec un MRSS, qui est le multi-role support ship. La notion, c'est que la type 32 ne sera pas très grosse, elle ne pourra pas porter tous les drones, elle en portera quelques-uns. On parle de notion de pod, d'objets portables. Mais le MRSS sera, lui, pour porter les drones, les mettre à l'eau, les récupérer. Et par contre, la type 32 aura la capacité de les prendre en opération. Donc il y aura une notion d'opération déportée, il y aura une notion également d'intégration. Et comment est-ce qu'on autorise un drone qui a été mis à l'eau plus loin par une unité qu'on imagine être amie à rentrer dans le dispositif, à rentrer dans la mission, donc avec notion d'authentification et de sécurisation.
On va passer à d'autres questions de la salle. Oui.
Oui, bonjour. Armand Bayon de la Tour, Naval Group. J'avais une question sur la confiance et le volet diplomatique des systèmes automatisés. Il a fallu parfois plusieurs décennies, mais quand on a des nouvelles capacités militaires qui étaient apparues, que ce soit pour les armes nucléaires, les armes chimiques, il a fini par se dégager quelques principes et des traités internationaux, alors qui ne règlent pas tout, mais qui néanmoins aident à la confiance. Est-ce que, aussi pour les systèmes, alors on parle des SALA, les systèmes automatisés, létal autonome, est-ce qu'il peut y avoir des principes aussi qui pourraient se dégager, des discussions? Ou bien est-ce qu'on va rester uniquement dans le domaine de la compétition, vu l'état du monde?
Alors, tout dépend de quelle partie du monde sur quelle partie du monde vous vous concentrez. Il y a un très 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 gros effort des forces américaines avec la création d'un partnership qui réunit 16 nations maintenant, en matière d'IA de défense pour, alors c'est un partenariat pour développer une IA de défense responsable. Alors, ce sont nos amis américains. Donc derrière, assez rapidement, il y a quand même l'idée qu'il faut que ce soit des dispositifs interopérables, si possible, enfin non, pas pour les Américains, qui utilisent les standards américains et donc qui valorisent un petit peu les entreprises américaines. Il n'empêche que ce partnership s'est réuni déjà à 5 ou 6 reprises et c'est assez révélateur. La première thématique qui a été traitée, c'était les questions d'éthique. Le DOD fait partie des ministères, hein, des organisations de défense. C'est probablement la première, je crois, à avoir développé, publié un jeu de principes éthiques pour le développement et l'utilisation de l'IA, des systèmes dotés d'autonomie. Il essaye non pas d'exporter ce jeu de principes, mais il encourage très fortement ses alliés et partenaires à faire exactement la même chose. Il y a des réflexions extrêmement importantes au niveau de l'OTAN là-dessus, qui vont évidemment être utilisées pour la création de STANAC, donc de standards techniques communs au sein de l'Alliance. Donc oui, il y a quelque chose. Maintenant, quand vous observez le discours américain, il est très clairement fondé sur un clash de valeurs. C'est-à-dire, en fait, les Américains, dans toutes leurs déclarations, quand vous prenez les responsables du Joint AI Center, qui est la cheville ouvrière de la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans le DOD, quand vous prenez tous les responsables civils, ils disent tous une chose, les emplois de l'IA de la Chine et de la Russie ne respecteront pas le droit international, ne respecteront pas les valeurs démocratiques, et donc nous devons créer une communauté de valeurs pour protéger les libertés, enfin à l'américaine, ça va même jusque, quand vous regardez dans les documents, il faudrait même que l'IA de défense permette, alors c'était quoi l'expression, puisque c'est censé être un motto américain, de donner à toute personne la chance de s'épanouir dans sa vie. Bon, ça va très loin. Il n'empêche que, alors, il y a beaucoup de commentateurs qui disent, en rester à juste un discours autour des valeurs communes, c'est pas très très bon, surtout quand les Américains eux-mêmes, dans les mêmes documents, disent « et nous, on va protéger nos intérêts industriels et technologiques ». Mais il n'empêche qu'il y a une vraie volonté de mobilisation, et quand je parle des alliés et partenaires des Américains, c'est pas que les Européens. Il y a évidemment les Canadiens, les Australiens. Ils ont intégré à ce partnership Singapour, par exemple. Et pourquoi Singapour? C'est assez révélateur. Par l'Inde, il n'y a pas très très longtemps, ils ont mis aussi en place des accords bilatéraux sur l'IA de défense avec un certain nombre d'acteurs, dont l'Inde. En fait, ils commencent à faire, d'un point au niveau du développement de l'IA de défense, du containment vis-à-vis de la Chine. Donc, espérer qu'un jour, il y ait un accord international autour de l'intelligence artificielle de défense, ça va être très compliqué, puisque de toute façon, un des moteurs du développement de cette IA de défense, c'est les États-Unis. Ils sont déjà dans leur discours en opposition à la Chine et la Russie. Donc ils ne veulent pas les intégrer dans les efforts de normalisation, en fait, de ces technologies. Donc, par contre, on aboutira sans doute à des effets d'intégration, y compris d'ailleurs par les standards techniques, très fort entre, c'est ce que beaucoup de nations veulent, hein, y compris la France, hein, puisqu'on participe au partnership, par exemple. On voudrait, alors, sans perdre sans se faire piller nos technologies par les Américains, sans se faire imposer les standards techniques américains, mais en tout cas sur le fond, c'est-à-dire un partage, une communauté de destin autour de valeurs partagées, et d'un emploi responsable de l'intelligence artificielle, on va avoir une intégration autour de ce discours qui va être forte à l'avenir. Oui.
Voilà, exactement. Bon timing. Il me reste juste à remercier les intervenants. Un grand merci à tous. Merci beaucoup.